Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission mercredi prochain à partir de 18h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter, partenaire du 29e festival Jazz sous les pommiers à Coutances du 8 au 15 mai. Une semaine de fête avec plus de 50 concerts. Brad Meldo, Joshua Redman, Mélodie Gardot, Vincent Segal, Chaïti Diansek, Angelo Debar. Et retrouvez le concert de Roy Hargrove dans Musicalities de Manu Katché le 9 mai à 22h. Renseignements, franceinter.com.
France Inter présente le festival 12 au 23 mai, en direct du Majestic Barrière. Du lundi 17 au jeudi 20 à 9h10, Esprit Critique de Vincent Josse. Et retrouvez Eva Bettan et son équipe tous les jours dans les journaux de France Inter. Le 63e Festival de Cannes, c'est sur la Croisette au Palais des Festivals avec France Inter. Renseignements sur franceinter.com. France Inter.
La différence.
Il est 15h04 sur Inter, l'heure de retrouver la Danielle Mermet, c'est là-bas si j'y suis.
Ouf, la Grèce est enfin sauvée. Merci Sarko, merci Merkel et surtout merci Strauss-Kahn qui nous ont concocté un plan de rigueur aux petits oignons. On savait ce qui nous attendait avec les deux premiers. Maintenant, nous le savons, si le troisième devenait président. Oui, le FMI et son patron Strauss-Kahn ont exigé et obtenu un petit gel des salaires pour 3 ans. Il est vrai que ces salauds grecs, qu'est-ce qu'ils palpaient tous les mois? Fallait stopper cette gabegie. Plus de congés payés. Oui, congés payés qu'ils avaient, ces feignants grecs, quand même. Suppression des 13e et 14e mois pour les fonctionnaires grecs. Ces insupportables sangsues qui ne savent même pas qu'il n'y a que 12 mois dans une année. Enfin, quelques points de TVA en plus. Des fois que ces gros profiteurs de grecs auraient encore trop de pognon en fin de mois. Ah, merci Sarko. Merci Strauss-Kahn. À bientôt.
Il y a une chose aussi que mon esprit simpliste ne comprend pas. Comment un État peut-il se renflouer en baissant les salaires, en licenciant? Comment peut-il augmenter les impôts de ceux qui n'ont plus de revenus? Autrement dit, en paralysant la production et en réduisant le pouvoir d'achat. Ça paraît aberrant. Ou alors, où est l'astuce?
Bonjour à tous. Mercredi 5 mai à 20h30 au bar A Minima, 159 Grand Rue. Le repère de Poitiers se propose de faire un état des lieux sur les solutions locales poitevines, AMAP, CEL et autres associations collectives et solidaires. Voilà, venez nombreux pour découvrir ce qui peut se passer de local et d'intéressant à Poitiers. Salut!
La course des 24 heures motonautiques de Rouen, résultat des courses, course interrompue, un mort, un blessé grave. Le mort, c'est un gendarme qui laisse de côté une veuve avec 4 enfants en bas âge. Le pilote lui s'en tire bien, donc voilà, ça fait des années qu'on dénonce cette course complètement idiote où des pilotes prennent des risques inconsidérés à tourner 24 heures pour rien, à dépenser du carburant et à prendre des risques pour eux et pour les autres. La preuve en est faite. Il est certain que quand on met des péniches qui avancent à 30 km/h face à des bateaux qui roulent à 200, inévitablement, un moins un autre, ça pose problème. En déplorant cet accident mortel, en espérant que cette course complètement ridicule, idiote et inutile va désormais définitivement s'arrêter. Salut.
Bonjour à tous. Rappel aux AMG du Nord de Sèvres. Aujourd'hui, c'est le premier lundi du mois de mai. Donc, rendez-vous au Repère de Thouars, Café des Arts, 53 rue Saint-Médard, à partir de 18h-18h30.
Et voilà. Bonjour à tous. Merci pour ces messages. Chers AMG, aujourd'hui on a une très très bonne nouvelle. Pour commencer ce mois de mai, ça tombe très bien. On a la solution. On a la solution avec Charlotte Perry. Enfin, toute l'équipe de là-bas, si j'y suis depuis des années, cherche des solutions contre le chômage, contre la destruction des emplois, contre la précarité. Eh bien, ça y est, on a trouvé la solution. Et on est heureux de vous faire partager cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est la solution, c'est le microcrédit. Oui, tous, vous allez pouvoir devenir entrepreneur si vous ne l'êtes pas déjà grâce à cette émission. Vous allez pouvoir emprunter très facilement de l'argent pour monter votre petite entreprise de rien du tout, mais qui va vous permettre eh bien, de sortir du chômage, longue durée ou pas longue durée. Ça y est, c'est fini, nous sommes là, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et on va s'en sortir. Je ne sais pas s'il y a des Grecs parmi vous, en tous les cas, j'aimerais bien que cette émission soit entendue par nos amis Grecs, Portugais, Espagnols, Irlandais, etc., etc., qui connaissent, d'après ce que j'ai cru comprendre, des difficultés. Eh bien, nous avons la solution, c'est le microcrédit. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous, c'est pour vous signaler la reprise des Cafés Repères d'Alban dans le Tarn. Les nouveaux rendez-vous seront dorénavant tous les jeudis de chaque mois. Ce jeudi 6 mai à 20h30 au bar tabac chez Marco, nous parlerons des formes de résistance possibles à cette économie folle, trouver des solutions locales et alternatives, et prendre aussi quelques exemples sur ce qui existe. Donc, Ami Tarné à jeudi 6 chez Marco à Alban. Merci à tous, au revoir.
Salut Daniel, c'est un message urgent que je lance. Après la manifestation du 1er mai à République, des sans-papiers, environ 80, ont entrepris une longue marche pour rejoindre Nice, fin mai, où se déroule un contre-sommet franco-africain, afin d'expliquer leur situation. Samedi soir, ils étaient accueillis à Vitry-sur-Seine par le collectif Sans-Papiers qui sont à leur côté. Ces militants demandent que sur le trajet qui les mène à Nice, d'accueillir et de soutenir les sans-papiers dans leur juste lutte. Ce qui serait bien, Daniel, c'est que chaque jour, d'autres militants rendent compte sur les missions la longue marche de nos camarades sans-papiers. Ils repartaient ce matin d'Evry. Merci.
Beaucoup de gens nous disent « Mais depuis que je suis mon propre patron, c'est le bonheur. » Bien que tous aient des difficultés énormes, bien que leur revenu ait diminué avec la crise, 80% sont optimistes.
Le microcrédit, tel qu'il est promu, eh bien, crée l'illusion que la faute, en quelque sorte, d'être au chômage, d'être sans activité, vient des personnes elles-mêmes et n'est pas du tout le résultat de dysfonctionnements beaucoup plus généraux.
Je suis absolument convaincue que la petite étincelle de créativité existe dans chacun.
Alors sur les termes que l'ADIP peut utiliser, c'est une association qui est très décomplexée par rapport au vocabulaire de l'entreprise. Alors sur le fond, effectivement, la mise en œuvre d'une stratégie commerciale sur le microcrédit nous pose question.
Il faut produire plus, donc il faut qu'on s'organise différemment pour produire plus, et c'est pour ça qu'on a mis en place une nouvelle méthode de travail et le fait d'aller chercher nous-mêmes la demande. On va, nous, en tant que conseillers, chercher les gens pour leur expliquer en quoi ça peut être intéressant pour eux d'obtenir un microcrédit.
Personnellement, j'appelle ça du harcèlement, de me retrouver avec 15 lettres de relance, des recommandés, des menaces perpétuelles au téléphone.
Et là, bien évidemment, ce qu'on crée, c'est du bonheur.
C'est même plus du microcrédit qu'ils font ces gens-là. C'est de la boucherie.
C'est Daniel Mermès et là-bas, si j'y suis avec Charlotte Perry. Prenons l'argent là où il est, chez les pauvres.
Flight number 2, arriving from...
Bonjour, vous êtes bien à l'ADI. Ne quittez pas, un conseiller accueil va prendre votre appel.
L'ADI, ça va dire bonjour.
Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle pour savoir comment ça se passe pour avoir un crédit de l'ADI.
Oui, vous avez peut-être un projet, madame.
Je fais des tricots, des choses comme ça à domicile que je vends de temps en temps à des gens. En fait, j'ai surtout ma voiture qui est tombée en panne et je peux plus rien faire.
Alors, nous faisons du microcrédit professionnel pour les personnes qui créent leur entreprise et nous faisons du microcrédit social pour les personnes, dans votre cas, qui donc, pour pérenniser... Vous êtes demandeur d'emploi vous-même ?
Oui, je suis demandeur d'emploi.
Voilà, pour pérenniser, pour accéder à un emploi ou pérenniser votre emploi.
D'accord. Et si, par exemple, parce que là, ce que je fais avec le tricot, je le fais,
De façon informelle, oui.
Voilà, de façon informelle. Si je voulais le faire officiellement, parce que là, j'arrive en fin de droit...
Oui, vous pouvez créer votre entreprise si vous voulez, c'est ce que j'allais vous proposer. Parce qu'effectivement, vous travaillez en informel et que c'est un petit peu délicat, hein, si le fisc l'apprend, en fait. Nous, de notre côté, c'est complètement confidentiel. Ah. Mais ça, voilà, de faire les choses dans l'ordre, dans l'état des lieux, c'est beaucoup mieux. Si vous pourriez vous installer en tant qu'auto-entrepreneur, vous avez déjà la clientèle, vous avez déjà le savoir-faire, et vous manque juste à établir donc un plan de financement, et puis également une étude de marché, vous l'avez déjà. Donc après, on a besoin aussi de quelqu'un dans votre entourage qui vous soutient, sur qui vous pouvez compter, par exemple, Mademoiselle Durand.
Soit sur ma mère, par exemple, ou des amis.
Donc vous voyez, vous avez tous les critères possibles pour être financé.
Et pourriez-vous me débloquer le crédit
Rapidement, hein. Le crédit, ça va très vite. Hein. Après, c'est un virement qui est fait sur votre compte.
D'accord. Et après, donc, pour tout ce qui est des intérêts, c'est raisonnable ?
Oui, après, c'est le conseiller crédit qui pourra vous en parler.
Bah, écoutez, je vous remercie.
Mais je vous en prie, je vous dis à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Et voilà, c'est simple comme un coup de fil. Amis pauvres, vous voulez sortir de la pauvreté ? Vous voulez vraiment sortir de la pauvreté ? Vous le voulez vraiment ? Eh bien, cette émission est faite pour vous et vous venez d'en avoir la preuve. Il suffisait de passer un coup de fil à l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, qui n'attend qu'une chose, c'est vous aider à créer votre petite entreprise. Alors, c'est effectivement séduisant, c'est effectivement attirant, et on se dit, ben oui, pourquoi pas, le chômage augmente, crise de l'emploi, il faut doper le microcrédit auprès de ceux qui ne peuvent pas obtenir de crédit de la part des banques. Le microcrédit, c'est une histoire qui dure depuis déjà pas mal d'années, dont l'origine, la création est attribuée au professeur d'économie Mohamed Younous, qui avait dans son Bangladesh natal eu l'idée, ce professeur d'économie, de prêter tout simplement à des femmes qui faisaient de l'artisanat une petite somme ridicule de 27 dollars, mais qui était absolument indispensable pour qu'elles puissent créer leur activité. On connaît le succès de ces, au moins médiatique, de ces mesures, de ces plans. Mohamed Younous a eu le prix Nobel. Il est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Vers un monde sans pauvreté ». Qui lui dirait le contraire ? Qui serait pour un monde avec pauvreté ? Évidemment, personne. Or, ces microcrédits, eh bien, s'étendent maintenant, non plus seulement aux pays en développement, mais chez nous également, et ça intéresse beaucoup le gouvernement actuel qui, face à la crise de l'emploi, entend doper le microcrédit. Alors, en 2008, selon l'inspection générale des finances qui a rendu un rapport tout récemment, on a créé ou maintenu en France 48 000 emplois grâce à ces crédits. Alors, vis-à-vis du nombre total de chômeurs et de chômeurs précarisés, évidemment, c'est peu, mais c'est quand même pas mal. C'est attirant. On a voulu en savoir plus parce qu'on se dit, bah oui, c'est bien, c'est peut-être pas parfait, mais c'est des solutions quand même à court terme. Soyons réalistes, ne demandons plus l'impossible. Mais en creusant un petit peu plus, en allant voir un peu par derrière, on est un peu plus perplexe, disons. J'espère que vous le serez avec nous jusqu'à 16h de là-bas. Si j'y suis, prenons l'argent là où il est, chez les pauvres, disait Alphonse Allais.
En dessous.
de mes voisins. Un parfait citoyen, je cherche en vain moyen de trouver les moyens, moyenne en quelque sorte, sans que la vie m'assomme. J'invente les moyens des lendemains sans fin.
Si j'avais les moyens d'amasser quelques gains, de soulager mes doutes qui m'endettent, ensemble j'aurais dedans ma tête des idées bien plus nettes. Un seul désir me fouette, que mes vœux secrets branchés sur internet. Animal, exo, cet animal, 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 animal. Je vis en dessous de mes voisins, au-dessous de mes moyens. En dessous de mes voisins, au-dessus de mes moyens. En dessous de mes voisins, au-dessus de mes moyens. En dessous de mes voisins.
Ce serait bien trop bête de se prendre la tête. Ma chouton fait des bons, je me fais du mouron de Thomas Ciboulette. Tous ceux qui trottinent attendre la moquette. J'ai fumé mon blé en herbe, l'argent par la fenêtre, je dépose ma gerbe.
En dessous de mes voisins, au-dessus de mes moyens. En dessous de mes voisins, au-dessus de mes moyens. En dessous de mes voisins, au-dessus de mes moyens. En dessous de mes voisins.
Lâche-moi là parce qu'elle touche trop mal à la tête, même quand on s'obsolète.
Je suis la seule quand on pec, un peu con, un peu pec. Bon, un claquet du bec, sans provision, sans chercher, chez tous mes soucis sont faits. Mes crédits font la sieste, je prendrai ma retraite jusqu'au pied de mes dettes.
Des coiffées d'une cuite, aux galeries la faillite.
Je vis
en dessous de mes voisins, au-dessus de mes moyens. En dessous de mes voisins, au-dessus de mes moyens. En dessous de mes voisins, au-dessus de mes moyens. En dessous de mes voisins.
Vous faites quoi, Aladi?
Alors moi, je suis conseiller crédit à Aladi depuis maintenant 4 ans. Et d'où est parti Aladi? Comment a commencé l'aventure du microcrédit? L'histoire qu'on m'a racontée, si je me souviens bien, tout a commencé au Burkina Faso. Maria Novak faisait un voyage à Ouagadougou, elle a rencontré un petit cireur, le petit Moussa. Petit Moussa cirait des chaussures et elle est partie le voir tout naturellement, lui demandant comment il faisait, comment il s'y prenait, comment il gagnait son argent. Et puis, à sa grande surprise, elle a appris que le petit Moussa louait sa brosse. Alors, elle s'est dit, après tout, si elle pouvait lui prêter de l'argent suffisamment pour qu'il puisse s'acheter sa brosse, la rembourser, l'amortir très rapidement et en devenir propriétaire, peut-être qu'il gagnerait beaucoup plus. Il augmenterait ses revenus. Et c'est de là qu'est parti le microcrédit. Ça pouvait s'appliquer au Burkina Faso, mais partout ailleurs, surtout en France. Là où les jeunes de banlieue en avaient le plus besoin. Parce qu'il y a une autre histoire, c'est la mienne. Elle commence à Asnières, dans les quartiers. Moi, je suis spécialisé dans le quartier, j'ai développé une antenne dans la boucle nord du 92, où on s'adresse non pas exclusivement aux habitants du quartier, mais on a implanté notre antenne dans les quartiers et on essaye de répondre au mieux au potentiel qu'il y a dans les quartiers.
Voilà, voilà comment ça se passe, cette merveilleuse histoire narrée par Rachid, 30 ans, conseiller crédit à l'ADIE, A-D-I-E, Association pour le droit à l'initiative économique. Il travaille là-dedans depuis 4 ans et il est très persuasif, bien évidemment. Il faut persuader. Vous avez vu, Charlotte, elle est déjà, elle nous a quittés déjà, elle est en train de tricoter grâce au soutien de l'ADIE. Donc il faut absolument persuader chacun, évidemment ceux qui sont dans la gêne, dans la difficulté, d'accepter, de profiter de ces prêts de l'ADI pour développer leur entreprise. Vous avez entendu un petit peu de blague derrière, ça rigolait un petit peu. Ça n'a pas l'air d'être une histoire aussi authentique que ça. Mais écoutons Rachid.
Donc moi aujourd'hui je suis chargé de clientèle, crédit. Donc je fais du prêt pour les personnes justement qui ont un projet de création d'entreprise ou qui ont un projet tout bonnement de créer leur emploi. Parce que souvent on s'adresse à des personnes qui sont au chômage depuis très longtemps, qui ont épuisé on va dire toutes leurs ressources et qui n'ont plus qu'une alternative, c'est de créer leur emploi. À défaut de pouvoir chercher et de ne pas en trouver, ils ont décidé de franchir le pas et de créer leur emploi. Donc le plus souvent, voilà, on ne finance pas des entreprises ou des gens avec des ambitions internationales, mais des ambitions très modestes, juste pouvoir générer leur SMIC. Typiquement, on s'adresse aux vendeurs ambulants, ceux qui veulent s'installer sur le marché, ceux qui ont décidé de profiter de la vague internet et de vendre sur le net, le e-commerce. Et pour ce qui est prestations de services, ça peut être du service à la personne, du service aux entreprises directement, nettoyage et autres, et beaucoup d'artisans dans le bâtiment.
Et comment ça fonctionne du coup? Vous avez des taux très bas parce que c'est des gens démunis ou...
Non, pas du tout, on fonctionne pas du tout comme ça. L'idée du microcrédit, c'est aussi de responsabiliser les gens. Certes, on s'adresse à des personnes qui sont exclues du système bancaire, mais on part du principe que ces personnes-là ont besoin de se sentir un peu responsables ou redevables. Non, il y a des taux d'intérêt qui sont quand même qui sont supérieurs à ceux de la banque. Donc, grosso modo, on peut aller jusqu'à 9,71. Quand on donne le taux d'intérêt, ça paraît... c'est très élevé, mais sur des petits montants, ça reste... Ça passe. Tu iras à ton. Ouais. Pour 1000 euros, le coût du crédit, c'est 132 euros sur 12 mois.
Ouais. Donc c'est 9,71. Il y a des frais en plus ou c'est...
Il y a des frais, oui. Il y a des contributions de solidarité qui sont de 5%. Donc si on parle de TEG global, on est à 14,71, 15.
Donc du coup, c'est 15% le coût réel du crédit.
Voilà.
Ah, quand même, oui, c'est pas mal comme taux. C'est pas mal d'un côté comme de l'autre. C'est pas mal pour celui qui emprunte et c'est pas mal non plus pour celui qui reçoit ses dividendes. Mais allons voir ça de plus près. Rendons-nous à l'antenne locale de l'ADI où des bénévoles comme Pierre Maraudon, chef d'entreprise retraité, dispense ses conseils.
Donc, ce cercle que l'on baptise bien des marais, c'est un peu, comment dire, la vitrine de ce que l'ADI peut vous proposer. Après, vous choisissez les articles qui vous intéressent. Alors d'abord, première chose, l'ADI... c'est une association qui a plus d'une vingtaine d'années et qui compte maintenant, je ne sais pas exactement quels sont les chiffres, mais 60 000 personnes aidées ou 65 000 personnes aidées. En gros, à l'heure actuelle, le rythme, c'est à peu près 10 à 12 000 créateurs chaque année qui sont aidés. Alors, je m'appelle Pierre Maraudon et je suis un bénévole ADI. C'est-à-dire que je fais partie d'une catégorie de... personne à l'ADI, qui accompagne les créateurs dès qu'ils se lancent, qu'ils ont eu un crédit de l'ADI. Et donc, à l'ADI, vous avez deux catégories de personnes. Installez-vous, il y a la place là, encore. Il y a deux catégories de personnes. Il y a les salariés qui sont de l'autre côté de la vitre, là pour l'essentiel. Donc, eux sont essentiellement les conseillers crédit, c'est ceux qui instruisent les dossiers pour les prêts. Et donc, à côté des bénévoles, vous avez les salariés, et l'ensemble forme les équipes ADI, antenne par antenne. Ici, on se partage entre deux antennes, celle de Danières et celle d'Argenteuil, parce que c'est assez proche et parce qu'il y a des dossiers communs. Donc, il y a des éléments de conseil qu'on peut vous apporter, mais il y a un moment où il y a des prestations spécialisées. Donc, le but du jeu, c'est de mettre... autour de vous, le maximum de points de sécurité et quelques repères. Et après, bon vent, hein, si vous décidez d'être entrepreneur, c'est que vous y croyez. Et le seul souhait que l'on puisse avoir, c'est d'éviter que vous ne disparaissiez dans les 3 ou 4 premiers mois, parce que c'est là où on fait le plus de bêtises.
Alors, ça, c'est une pub qui a été faite l'année dernière pour la semaine du microcrédit, justement, c'est donc du 2 au 6 juin l'année dernière. Ça a été fait par des pros, hein, c'était pour montrer que voilà, l'entrepreneuriat, c'est pas seulement réservé à une certaine élite, mais que tout le monde peut devenir patron.
Pourquoi il y a une partie de la chaussure qui est en blanc sur les chaussures noires?
Je pense que l'idée derrière tout ça, c'était que on n'est pas obligé d'être entrepreneur avec une super paire de chaussures noires en cuir, mais qu'avec des baskets, on peut aussi être entrepreneur. Donc c'était juste un petit clin d'œil pour dire un coup de cirage et on devient entrepreneur avec des belles chaussures noires cirées, quoi.
Vous avez créé une entreprise?
Oui, je vais créer une entreprise là. Hein, une entreprise pour Pour le marché.
Pour le marché?
Pour le marché. Je vais vendre des articles. Des articles qu'on ne voit pas ici. Ouais. Tels que les maillots, les pantalons, les tennis, qu'on ne voit pas ici. Ouais. Mais je vais essayer quand même. Je vais les chercher aux États-Unis. Ce sont des trucs, des maillots, des stars, tout ça. Je sais, ça va marcher.
Et vous l'avez créé ou vous allez la créer?
Je l'ai créé déjà. Ouais. Comme j'ai besoin d'un peu de fonds, ouais, je demande à Eddie de me lancer.
D'accord. Ouais. Vous allez emprunter combien?
Bon, j'avais demandé 4000 euros pour commencer. Bon, comme je viens d'appeler ma conseillère, on m'a dit que on va me prêter 3000 euros.
Ouais. Ça va aller pour vous lancer?
Oui, ça peut aller parce qu'aux États-Unis, quand vous avez 3 000 euros, ça peut monter jusqu'à 3 500 $ américains.
Comment vous avez entendu parler de l'ADI?
Ouais, c'est de bouche à oreille. C'est quelqu'un qui parle d'ADI, on va dire l'adresse, et puis je suis venu directement dans l'adresse.
Et pourquoi vous n'êtes pas allé dans une banque normale?
Non, les processus sont trop difficiles. Ouais. Quand vous n'avez pas de, comment on appelle ça, un emploi fixe, ouais, on ne vous prête pas. Ouais. Je vends des trucs comme ça. J'ai l'habitude d'aller aux États-Unis pour acheter des trucs, mais comme je manque de fonds, je viens d'ici.
Alors voilà, ben c'est plutôt sympathique, c'est plutôt stimulant, ça semble vraiment une bonne solution. Voyons la créatrice du microcrédit en France, voyons Maria Novak, qui est née en 1935, spécialiste du microcrédit et présidente de l'ADI, Association pour le droit à l'initiative économique.
Maria Novak, je suis présidente de l'ADI, Association pour le droit à l'initiative économique. Il y a en France un droit d'entreprendre qui date de la Révolution française, qui est un droit constitutionnel, et c'est un droit qui n'est pas effectif, d'une part parce que pour créer une activité, une entreprise, quelle qu'elle soit, il faut un peu de capital. Les gens pauvres n'ont pas de capital, donc il faut pouvoir le leur prêter. Et puis, deuxième condition sine qua non de ce droit d'entreprendre, c'est que les lois n'empêchent pas de le faire. Or, en France, il y a une quantité absolument inouïe de toutes sortes de lois, de réglementations qui vous empêchent de faire ceci et cela. Et c'est contraire à ce droit fondamental. Donc, lorsqu'on a créé l'ADI, on s'est dit il faut tirer des enseignements de notre action pour pouvoir proposer au gouvernement tel ou tel ajustement législatif ou réglementaire. On a contribué, je pense, à faire passer l'idée du statut de l'auto-entrepreneur et on espère rendre l'environnement de la création d'entreprise, comme l'environnement du crédit, un peu plus simple. Depuis 20 ans, en fait, la demande n'a cessé de croître. À ce jour, nous avons financé plus de 80 000 prêts avec une augmentation à chaque année de 20-25%. Et on a pu prouver qu'il y a en France, à l'heure actuelle, un vrai marché pour le microcrédit. Tout simplement parce que notre économie est de plus en plus basée sur des services. Et que pour développer les services, on peut le faire dans des toutes petites unités. Chacun, quelque part, peut créer sa propre entreprise. Je suis absolument convaincue que la petite étincelle de créativité existe dans chacun. Alors ensuite, on peut la développer ou ne pas la développer, mais pour toutes sortes de raisons. Mais elle existe. Il y a une part non négligeable des Français, parmi les 8 millions de pauvres recensés officiellement, qui font toutes sortes de petits boulots parce qu'ils ne peuvent pas survivre autrement. Donc, il y a infiniment plus d'expérience en matière d'entreprise en France qu'on ne le sait, qu'on ne le reconnaît. Il y a 4 millions de chômeurs,
Disons que le marché potentiel, c'est 300 000, enfin 400 000, en gros 10% des chômeurs. Et bien évidemment, tant que vous laissez les gens travailler au noir, ils ne peuvent pas développer l'activité, donc ce n'est pas bon pour eux, mais ce n'est pas non plus bon pour l'économie. Dans la situation actuelle, il est évident qu'on ne pourra pas maintenir le système de protection sociale sous sa forme actuelle. C'est tout simplement impossible. La collectivité n'est plus en mesure, objectivement, il faut, je crois, se le dire, n'est plus en mesure de porter le poids de chômeurs, plus le poids d'une démographie vieillissante. Il faut quand même que quelqu'un gagne de l'argent dans ce pays.
Écoutez, comment pouvez-vous être critique maintenant après avoir entendu ça? C'est formidable. Les lauriers pleuvent sur le microcrédit. Et pourtant, il y a des critiques, il y a toujours des critiques, des bémols plus ou moins radicales. Exemple, Jean-Michel Servet, professeur d'études du développement à l'Institut des Hautes Études Internationales et du Développement à Genève.
Jean-Michel Servet, je suis professeur d'études du développement à l'Institut des Hautes Études Internationales et du Développement de Genève. Maria Novak est quelqu'un qui, à l'origine, vient de l'Agence française de développement. C'est-à-dire qu'elle a une expérience de terrain, notamment dans les pays africains, importante. Et c'est quelqu'un qui a été extrêmement séduite par la Grameen Bank. Et donc, elle a eu l'idée de transposer ce système dans un pays tel que la France. Avec la conviction, par exemple, qu'elle écrit que bon, le salariat, c'est un peu fini, en quelque sorte. Hein, qu'on entre dans des entreprises de la micro-entreprise qui se développerait. Ça serait, en quelque sorte, le futur. Donc, il y a cette idéologie dont on peut même trouver des racines chez Proudhon ou chez Saint-Just, en quelque sorte, qui, d'ailleurs, dans le cas de Saint-Just, contrairement à souvent ce qu'on imagine, c'est une pensée extrêmement libérale, hein, qu'on a de petits propriétaires. En quelque sorte, elle s'appuie aussi sur ce terreau. Et Maria Novak, du fait des critiques qu'elle a pu produire à l'encontre notamment des syndicats pour développer le microcrédit et aussi de l'économie solidaire, ne s'est pas fait que des amis dans ces secteurs-là. Je me souviens de Maria Novak il y a une dizaine d'années déclarant « Les syndicats ont aliéné leur liberté d'entreprendre contre leur sécurité de l'emploi ». La question du taux d'intérêt touche à une idéologie extrêmement forte qui est la volonté de non-intervention directe de l'État pour compenser les inégalités. Et au cœur de la pensée de Maria Novak, il y a l'idée de créer quelque chose d'autonome de l'État. Même si, par ailleurs, une association de ce type, comme les autres, se trouve soutenue par des fondations privées, et on sait que les fondations privées, eh bien, n'existent parce qu'il y a des avantages fiscaux pour ceux qui les créent. Donc on a une sorte de déséquilibre, on a un discours anti-étatique, alors qu'on peut penser qu'au nom de l'égalité entre les citoyens, ceux qui ne présentent pas des garanties suffisantes pour le système bancaire pour pouvoir bénéficier de taux d'intérêt plus faibles, eh bien à ce moment-là, on peut dire que ça fait partie du rôle de l'État, ça fait partie sans doute des rôles de collectivité territoriale, eh bien de soutenir ce mouvement. Et on entre dans une société profondément inégalitaire, et l'inégalité, c'est que les pauvres payent beaucoup plus que les riches. Et ça, à mon sens, ça participe au modèle néolibéral. D'une certaine façon, on crée la conviction que c'est à chacun de s'en sortir par ses propres moyens et qu'il n'y a aucune responsabilité, en quelque sorte, collective dans les dysfonctionnements du système. Donc je crois que c'est cela qui est extrêmement dangereux dans, en quelque sorte, une super promotion du microcrédit pour résoudre les problèmes. C'est-à-dire que si les personnes se trouvent sans activité, c'est leur propre faute, ils n'ont qu'à créer une activité, descendre en bas de leur immeuble pour, comme on le voit dans des pays du Sud, au bord du trottoir, vendre quelque chose qu'ils ont racheté en pièces détachées.
France 5, 6 mars 2009, Maria Novak, la banquière de l'espoir.
En fait, lorsqu'on est au chômage ou au RMI, la pire des choses, c'est de rester passif, de ne pas bouger. Rester simplement assis sur sa chaise et toucher les allocations familiales et le RMI, c'est une solution invivable. Il y a un mot terrible qui est la dépense passive pour l'emploi. C'est quoi la dépense passive pour l'emploi? C'est entretenir les chômeurs. Le but premier d'une politique sociale devrait être d'aider les gens à s'insérer.
Et c'est ce que fait l'ADI, vous l'avez compris. À part ces critiques, revenons maintenant à l'antenne de l'ADI à Asnières. On retrouve Rachid, qui est conseiller crédit, et Kassim, qui est client.
Ça, c'est des conseillers crédit.
Ouais.
Et derrière la vitre, là
aussi.
Donc, tu viens de signer un contrat de 2100 euros. Aujourd'hui, tu es un créateur ADI. Bien sûr, tu pourras bénéficier d'un accompagnement adéquat tout au long de ta création, en matière de protection sociale, mais aussi de commercialisation, de prospection. Si tu as une question ou quoi que ce soit, un papier administratif, une déclaration à faire via Internet, on sera là pour répondre à toutes tes questions. Donc, concentre-toi sur aujourd'hui la vente exclusivement sur le marché. Nous, on va essayer de t'appuyer le plus longtemps possible dans la durée en termes d'accompagnement via ton administration. C'est très important.
Je prends un morceau aux commissions.
D'accord.
C'est gentil.
Et puis, les bons comptes font les bons amis. Hein, et qui paye ses dettes s'enrichit.
Tout à fait.
Hein ?
Je suis bien d'accord.
D'accord ? Allez, merci beaucoup.
Et s'il a un souci, par exemple, les bons cons font les bons amis, mais s'il a un souci à moi, comment ça se passe? Vous êtes un peu tolérant?
S'il a un souci à moi, son père s'est porté garant, il est caution. S'il y a un souci, ce qui peut arriver, hein, lors de bancaire ou quoi que ce soit, eh ben, on prend un accord avec Kassim. Si l'accord n'est pas respecté, on se tourne vers son père qu'il puisse prendre le relais. Voilà. Exactement. Mais je pense qu'il n'y aura pas de souci parce qu'on va le suivre tout au long. On n'est pas juste une banque, hein. On ne prête pas de l'argent et puis on attend que ça soit remboursé. Non, on va essayer de l'accompagner et puis on va pouvoir jauger son activité, voir comment elle évolue et anticiper les coups durs ou s'il y a une baisse d'activité ou quoi que ce soit et essayer d'intervenir le plus en amont possible. Mais 95% de nos clients remboursent bien. Et j'ai très peu de doute que Kassim fait partie des 5% qui nous pose entre guillemets un problème. Et donc Kassim va comprendre l'intérêt d'être bien accompagné et soutenu.
C'est pour ça que je vais entrer dans les 95%.
Tu y es déjà.
C'est très gentil, monsieur Rassi. Ah,
t'es parti du bon pied.
C'est très gentil.
D'accord, Kassim. Voilà.
Vous avez emprunté combien alors?
Là, aujourd'hui, il a emprunté 2100 euros. C'est son stock de départ, donc d'investissement. Grâce à ça, il va pouvoir remplir son stand de 6 mètres sur le marché, avoir toutes les pièces adéquates, c'est-à-dire 200 pièces de draps, housses, linge de maison. Et ensuite, au fur et à mesure, il va alimenter son stock au fur et à mesure des ventes, son stock de départ.
Et voilà. Il doit rembourser combien tous les mois maintenant?
Là, aujourd'hui, on s'est basé sur 95 euros.
Par mois?
Par mois. Voilà. Là, on s'est adapté à son budget personnel. Donc 100 euros, il peut les dégager tous les mois sans se mettre en difficulté. Et c'est là-dessus qu'on s'est basé.
Et comme bénéfice, vous estimez pouvoir réussir à faire combien par mois?
C'est un peu, comment dire, c'est top secret, quoi.
On arrive à l'estimer, suivant la place du marché qu'il a, par rapport à la saison, ce qui se fait. Bon, on arrive à l'estimer. Mais ça reste très secret. Très secret. Puis tous les vendeurs ambulants vous diront que ça va très mal. Est-ce qu'il ne veut pas avoir arrivé la concurrence? Donc c'est un peu, ouais... C'est un peu leur slogan, quoi. Tout va mal. C'est ça. Excusez-moi. Vas-y, bonjour.
Voilà, Kassim est plein d'espoir. Rachid, le conseiller, est un brave garçon. Mais ça se passe pas toujours aussi bien. À Bordeaux, rencontre avec un ancien client de l'ADI.
Je suis caricaturiste, j'anime des mariages, des salons, des repas, et je vends aussi beaucoup de caricatures et de portraits par Internet. Donc j'avais besoin d'investir dans un ordinateur, une imprimante, un accès Internet fiable. Et en étant RMiste, chômeur longue durée, ancien de l'éducation nationale, emploi jeune, licencié abusivement, je n'avais aucune économie, aucune ressource, donc c'est pour ça que j'ai voulu bénéficier de ce dispositif. Un RMiste qui crée une société peut très bien aller voir un banquier, mais déjà avant la crise, c'était tout le monde sait que ça servait à rien du tout d'aller voir un banquier quand on est RMiste, à moins d'avoir un projet, d'avoir inventé le nouveau Rubik's Cube, mais ça sert à rien d'aller voir un banquier quand on est RMiste, rien du tout. J'ai emprunté 6200 euros auprès de l'ADI. Le prêt était en deux parties, une partie de 124 euros par mois, une partie 131 euros par mois.
Donc c'était deux parties avec pas le même taux d'intérêt en fait.
Voilà, une partie avec un taux à 0% et un autre à 7,98%. Alors l'ADI au départ m'avait été présenté en fait comme une boutique de gestion qui pouvait nous donner des conseils à la création d'entreprise. À vrai dire, j'avais aucune nouvelle de ces gens-là tant que les paiements se faisaient régulièrement. Mais à partir du moment où j'ai eu des difficultés de trésorerie et que j'ai dû décaler des paiements d'un mois tout en les prévenant, je pensais qu'on pouvait décaler les remboursements. En fait, non, pas du tout. Dès qu'on a un retard, on reçoit des courriers, généralement deux courriers à chaque fois, le même jour. Et les relances par téléphone, 7h, 8h du matin, très tôt, que je pensais même que les employés de l'ADI m'appelaient de chez eux. Ils m'ont expliqué eux-mêmes qu'en fait, le taux de crédit qu'on payait, il paraissait élevé parce qu'il fallait bien qu'eux gagnent leur vie. Donc en fait, c'est la personne qui emprunte de l'argent, qui est RMiste, qui est censée être aidée, qui finalement permet au système d'exister. Et quand on connaît le taux d'échec des jeunes créateurs d'entreprise et le taux de réussite de l'ADI par contre, on se dit que c'est un drôle de système. C'est-à-dire c'est le RMiste qui paye l'investisseur. Et les jeunes de l'ADI, moi j'ai eu affaire à des gens carrément violents qui n'hésitent pas à menacer, à téléphoner. Moi, la personne qui se porte caution de mon prêt a été atteinte du syndrome Guillain-Barré. Elle était à l'hôpital paralysée. Elle était consciente mais paralysée. Il l'a appelée au téléphone. Il lui a dit que des huissiers allaient être envoyés chez elle pour 40 euros. Il manquait 40 euros sur un paiement. Il l'a menacé d'envoyer des huissiers chez elle. Ensuite, il m'a laissé un message sur mon répondeur, me menaçant de la rappeler en me disant « elle est très fatiguée et ça la fatiguera encore plus si je la rappelle ». Voilà ce que moi j'ai retenu des méthodes de l'ADI. Et après, dès que j'ai pu, effectivement, j'ai remboursé le plus vite possible. J'ai eu des gros incidents de paiement. C'est là que je suis rentré dans un engrenage et que j'ai découvert le vrai fonctionnement de l'ADI. C'est-à-dire, c'est un organisme de crédit plus cher que Sofinco, plus cher que CTLM, etc. Et qui fonctionne sur le dos des gens qui sont censés être aidés. Une fois l'argent débloqué, il y a une seule chose qui compte, c'est que l'argent revienne à l'ADI, avec les intérêts.
C'est une excellente idée.
Mais je savais que ça te plairait.
Mais t'as plus qu'à foncer.
Oui, il faudrait juste que j'emprunte 20 000 francs pour démarrer.
Ah ouais?
C'est ça le problème. Qui va prêter de l'argent à un chômeur?
Depuis 7 ans, une association, l'ADI, prête aux chômeurs qui ont une idée pour créer leur propre emploi. Aujourd'hui, l'ADI aide à créer 1500 emplois par an. C'est bien.
Mais si vous trouvez que c'est pas assez, aidez l'ADI.
Je suis conseillère crédit depuis 2003 et moi 2002. Le taux d'intérêt il a augmenté, il est à 9,71 actuellement pour les prêts investissements et il commence à 12% pour les prêts stock trésorerie. Mais le truc c'est qu'on prend en plus 5% de contribution de solidarité. Donc 5% de 6000 euros, ça fait 300 euros. Et donc c'est ça que moi je trouve énorme en fait parce que du coup on a un TEG qui explose. C'est quand même difficile à faire comprendre à des gens et dernièrement j'ai une personne qui vraiment s'est enflammée en me disant qu'on prêtait à des gens qui étaient précaires mais qu'en plus on se faisait de l'argent sur leur dos. Bon, c'est pas vrai puisque c'est une association donc on fait pas de bénéfices, c'est pour couvrir les coûts de la structure. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'un prêt de 6000 euros sur 30 mois, au total, le coût total du prêt il est de 1081 euros. Donc c'est quand même assez élevé. Nous, à terme, au niveau de l'ADI, on a pour objectif d'être autonome, entre guillemets, en fait, de plus avoir besoin des collectivités, etc. Et du coup, ben voilà, les 5% qu'on prend sur les crédits, les 9,71, ben ça permet de couvrir les coûts de structure, etc. Mais du coup, l'argent qui avant venait des collectivités locales, etc., ben on les prend en effet à nos clients.
Il faut produire plus, donc il faut qu'on s'organise différemment pour produire plus. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, donc depuis 2 ans, hein, ça s'est enchaîné, une nouvelle méthode de travail et le fait d'aller chercher nous-mêmes la demande. On n'attend plus que le partenaire ou du bouche à oreille, etc. On va, nous, en tant que conseillers, chercher les gens pour leur expliquer ce qu'on fait, leur expliquer en quoi ça peut être intéressant pour eux d'obtenir un microcrédit. L'objectif, en fait, il n'est pas tant mensuel, il est annuel. On a des objectifs, effectivement, qui sont fixés par les responsables. Ça varie d'un territoire à l'autre, mais grosso modo, par conseiller, on doit atteindre entre 90 et 100, voire un peu plus, microcrédits par conseiller. Donc, quand j'ai débuté, on était à 40.
Il faut produire plus et produire mieux. Donc, c'est pas évident quoi, de produire mieux quand on sait que les gens sont de plus en plus précaires, les gens ils sont de plus en plus surendettés. Donc, pour produire mieux, c'est un peu compliqué.
Et ça, vous en rencontrez des problèmes de surendettement ?
Oui, énormément et de plus en plus. Bon, après, c'est pas, il n'y a pas que le prêt de l'ADI qui fait que ces gens-là se retrouvent en surendettement. Hein. C'est qu'à côté, ils avaient des prêts à la conso qu'ils ont fait ou qu'ils avaient déjà. Et du coup, ils ne peuvent plus rembourser à un moment donné. C'est clair qu'avec avec un RSA à 400 euros par mois, c'est compliqué de rembourser les crédits. Quand je suis rentrée à l'ADI, moi, mon pire ennemi, c'était ça, quoi. C'était de rappeler les gens qui payent pas parce que j'étais trop dans l'affect. Donc, je connaissais les personnes parce que je les avais vues en entretien, je les ai financées. Il y en a certains, j'étais chez eux, j'ai vu leur famille, etc. Et du coup, bah, quand il y a un impayé qui tombe, c'était difficile, en fait, de leur demander les sous parce que, voilà, je les connaissais et... Maintenant, on est plus sur le même rapport, c'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'il y ait d'affect. Et d'ailleurs, quand on appelle quelqu'un qui est en impayé, on ne cherche pas à comprendre quelle est sa situation. La première des choses à faire, c'est récupérer l'argent.
Et si le client ne peut pas, comme il a une caution, puisque tout prêt de l'ADI est soumis à un cautionnement à hauteur de 50% de son prêt, et ben, il faut appeler immédiatement, dans la minute qui suit, la caution pour lui demander le remboursement à sa place. Donc oui, on a une pression parce qu'on a des objectifs aussi en termes d'impayé à réaliser. Donc il faut qu'on soit à zéro, bien évidemment, et c'est difficile.
Moi, je sais qu'il y a une personne que j'ai envoyée en contentieux il y a 4 ans qui m'a appelée il y a 3 mois pour me dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a les huissiers chez ma sœur qui était caution, en fait. » Donc c'est vrai que j'ai été hyper surprise parce que 4 ans après, je l'avais oublié, quoi. Et je lui dis « Bah oui, hein, vous n'avez pas payé, donc oui, il y a des poursuites judiciaires et voilà pourquoi on vient vous prendre votre télé. »
Thierry Hibert, inspecteur général des finances, et j'ai coordonné les travaux sur la mission sur le microcrédit demandé par la ministre de l'économie et des finances. Le rapport a été rendu il y a à peu près 2 mois. Le principal intérêt, je dois dire, de la mission a été en fait de démontrer 3 choses essentielles. La première, c'est que le secteur crée des emplois. Il a créé en 2008 48 000 emplois. Pour 12 000 crédits accordés. Donc vous voyez bien que c'est quand même intéressant. Deuxièmement, ces crédits sont, pour l'immense majorité, parfaitement remboursés. C'est quand même extrêmement intéressant parce que ça veut dire que le taux de sinistre est faible et que donc il n'y a pas à avoir peur de se lancer dans le microcrédit. Troisièmement, pour la société, c'est rentable, non pas seulement socialement ou qualitativement, peut toujours dire effectivement il vaut mieux que quelqu'un travaille plutôt que d'avoir des inactifs. Mais on a pu démontrer que c'était rentable financièrement, simplement financièrement. Autrement dit, quelqu'un qui bénéficie d'un microcrédit et crée son emploi fait économiser à la société en gros 2500 euros sur 3 ans. Vous me direz, ça n'est pas beaucoup. Mais enfin, si on ajoute à cela le fait que socialement, c'est quand même beaucoup mieux, il y a un intérêt majeur à financer ce type d'activité. Et c'est la raison pour laquelle les responsables politiques, de quelque bord qu'ils soient, sont intéressés par le modèle.
Voilà, les mots de l'inspecteur général des finances qui a supervisé le rapport commandé par Christine Lagarde, rendu au mois de décembre dernier. Et c'est l'enthousiasme et c'est la solution. Il y a des bémols inattendus, celui-ci, du côté de la Croix-Rouge.
Benjamin Cavalli, je travaille donc à la Croix-Rouge française, à la direction de l'action sociale, et donc je travaille sur le dispositif du microcrédit depuis 2008. La question qui est derrière ce développement du microcrédit de manière très importante, c'est la question du modèle économique. Et aujourd'hui, notre position, nous, à la Croix-Rouge française, et c'est valable aussi pour d'autres associations, c'est de dire attention, nous on veut bien travailler sur le microcrédit, à certaines conditions. Et une des conditions fondamentales sur la question du taux d'intérêt et sur le modèle économique, c'est qu'on n'utilise pas le taux d'intérêt comme un levier permettant de rentabiliser l'activité. Donc on n'est pas sur des logiques de marché, clairement.
Et quelle a été la réponse du gouvernement ?
Alors, on a été accueillis effectivement par Michel Candessu, qui est le président du COSEF, hein, qui est nommé directement par Christine Lagarde. Le COSEF, qui est l'instance qui pilote le dispositif du microcrédit professionnel et du personnel. Là, effectivement, l'objectif de Michel Candessu, c'était de nous faire comprendre que les temps ont changé, que derrière, on avait tout intérêt à impliquer plus de banques. Pour que ça soit un peu attractif, il fallait penser à augmenter le taux d'intérêt, qu'il fallait passer la barre des 10%, et que tout ça allait se faire correctement, puisqu'il y allait avoir des rencontres entre banques et associations et qu'on allait nous expliquer tout ça. Aujourd'hui en France, on a un développement parallèle du microcrédit et de la simplification à l'accès à la création d'entreprise. Après, effectivement, le gros danger, encore une fois, avec une stratégie commerciale forte, c'est qu'on pousse les gens à la création d'entreprise. Enfin, entrepreneur, déjà, il y a quelques éléments de base qui me semblent fondamentaux, c'est avoir envie et avoir un projet. Et il y a une tendance certaine, on ne peut pas le nier, à pousser certaines personnes qui aujourd'hui ne trouvent pas de solution sur le marché du travail à la création d'entreprises. Il y a des gens ensuite qui se retrouvent à vendre des sandwichs dans une zone industrielle où ça ne répond pas du tout à la demande. Et voilà, clairement, on sait très bien, il y a Pôle emploi, il y a certains travailleurs sociaux ont tendance à pousser les gens à la création d'entreprises, ce qui finalement peut arranger tout le monde, mais pas forcément la personne. Là où on se dit attention, c'est que l'ADI, Maria Novak, qui est la présidente de l'association, est aussi très influente sur ces sujets-là.
Donc à tous les amis de Maria Novak, vous êtes les bienvenus ici, je suis ravie de vous accueillir. Maria Novak, au nom du président de la République, nous vous faisons ce soir officier dans l'ordre de la Légion d'honneur.
15 avril 2008, Maria Novak.
Je ne reviendrai pas sur mon parcours personnel. Ces distinctions s'adressent d'abord aux 50 000 chômeurs et rémistes financés et accompagnés par l'ADI, qui ont eu le talent, le courage, l'énergie de sortir de l'exclusion en créant une entreprise. Merci beaucoup.
Voilà, laurier pour la créatrice de l'ADI, mais bémol du côté de Jean-Michel Servais, je le rappelle, professeur d'études du développement à l'Université des Hautes Études de Genève.
Alors, on peut voir deux risques, des risques individuels et des risques collectifs. Le premier risque, c'est le risque de surendettement des personnes, c'est-à-dire que pour se développer, les institutions sont amenées à promouvoir sans prendre les garanties nécessaires, parce qu'il faut faire du chiffre, parce qu'en quelque sorte, il faut couvrir ses frais de fonctionnement, eh bien, à surdévelopper le microcrédit. Et la barrière qu'on va rencontrer dans ce cas-là, c'est le surendettement des personnes. Et je dirais même, si les personnes, on les contraint à rembourser, par exemple, par les garanties qui sont prises sur l'entourage familial, c'est un appauvrissement qu'on peut constater. Le risque collectif du microcrédit, c'est de créer des formes d'activité qui ne respectent plus les normes sanitaires, sociales, c'est-à-dire on va avoir en quelque sorte quelqu'un qui va travailler 50, 60, 70 heures par semaine et recevoir une rémunération qui est très inférieure au salaire minimum. Dit autrement, c'est un risque de tiers-mondisation des pays développés. C'est là où je vois le danger très très important à présenter le microcrédit et à l'installer.
Voilà, merci à tous. C'était un reportage de Charlotte Perry. Merci à toute l'équipe Adi Danière, ainsi qu'à Jean-Michel Servet, Benjamin Cavalli. Jean-Michel Servet va sortir un bouquin dans les jours prochains qui s'intitule « Le grand renversement de la crise au renouveau solidaire ». C'est chez Desclés de Brouwer. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Alain Gadan et Arnaud Caillet. C'est Koy Nguyen et Raphaël Moutéa qui ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebotte et Céline Rouzet. Attend vos messages au répondeur de la base J'y suis, qui est, dont le numéro est le 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. Et puis préparez-vous, préparez vos kimonos et vos sabres de samouraï, parce que lundi prochain nous partons au Japon, un long voyage au Japon, à Tokyo. On ira voir les usines Toyota, un petit tour sur l'île de Sado, et puis on ira aussi à Okinawa. Ça commence lundi prochain. Réclame, s'il vous plaît.
À déjeuner, vous avez pris un verre et vous en prendrez peut-être un autre ce soir en famille ou avec des amis. Mais sur une semaine, savez-vous quelle quantité d'alcool vous consommez ?
Pour vous aider à faire le point, le site alcoolinfoservice.fr vous propose l'alcomètre, un programme pour mesurer votre consommation d'alcool et ses risques éventuels. C'était un message de l'INPES et du ministère chargé de la Santé.
Les armes de la table.
Poule ! Poule !
Mais qu'est-ce que tu fais ?
Du tir au pigeon.
Du tir au pigeon avec nos assiettes et nos verres ?
Mais oui.
Mais pourquoi ?
Mais ça fait 15 ans, chérie, qu'on a les mêmes assiettes, les mêmes verres. Je veux du nouveau, je veux de la vaisselle d'aujourd'hui, moi.
Tu veux une nouvelle femme aussi ?
Oh, poule !
Les armes de la table.
C'est bien quand ça change.
Voilà, il va être 16h sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Clotilde Dumais. Salut à tous.
En France, les députés voteront dans la soirée le texte de loi rectificatif à la loi de finances pour dire oui au plan d'aide à la Grèce. Un vote qui ne pose pas de problème, la quasi-unanimité des députés devrait le valider, sauf les députés communistes qui voteront contre. Ils dénoncent ce plan qui va permettre à l'État français d'encaisser 160 millions d'intérêts. L'Allemagne a dit oui à ce plan. Berlin a entériné le volet allemand du plan d'aide à la Grèce, une contribution de 22 milliards d'euros sur 3 ans. Et Angela Merkel en a profité pour lancer l'idée d'une agence de notation européenne. Selon la chancelière allemande, cela pourrait être utile. La plupart des agences de notation qui font la pluie et le beau temps sur les marchés financiers sont en effet américaines. L'Élysée et le ministère du Travail démentent envisager un report progressif de l'âge de la retraite. Selon des informations du site internet du Monde, le gouvernement envisagerait, dans la future réforme des retraites, de reporter l'âge légal de la retraite à 61 ans en 2015, 62 ans en 2020 et 63 ans en 2030, une information qui n'a aucun fondement selon Eric Woerth.
C'est pas en spéculant qu'on avance, et surtout pas en spéculant sur les retraites. On est dans une phase de concertation qui va durer très longtemps. Donc il faut s'habituer à avoir des informations de cette nature, mais c'est des informations qui sont des informations qui ne reposent sur rien. Il n'y a pas de décision. Il n'y a aucune décision aujourd'hui prise par le président de la République ou par le Premier ministre concernant les retraites. Je mène cette phase de concertation avec beaucoup de sérieux. Et puis nous mettrons sur la table un document d'orientation d'ici le milieu du mois de mai, hein, comme je l'avais déjà indiqué. Et puis nous aurons un texte vers le milieu du mois de juin, puis un conseil des ministres en juillet. Donc notre calendrier sera évidemment respecté. Donc attention attention avec ce type d'informations. Soyons patients, car la patience, c'est au fond le fruit de la concertation. Les décisions seront prises dans le calendrier qui a été indiqué. Nous respecterons ce calendrier.
Le ministre du Travail avec Célia Kyré. À Strasbourg, environ 300 personnes se sont rassemblées ce midi devant la synagogue en signe de solidarité après l'agression antisémite commise vendredi en plein centre-ville. Les gendarmes recherchent toujours le dernier suspect du hold-up de Moulin-Mage dans le Tarn. Dans ce village paisible d'une centaine d'habitants, un quinquagénaire sans histoire a été abattu froidement vendredi parce qu'il tardait à obéir au braqueur d'un bar tabac. Cela faisait trois jours qu'il n'avait pas pu survoler la nappe de pétrole à cause du mauvais temps. Les gardes-côtes en Louisiane affirment que la marée noire n'a toujours pas touché les bayous. Et puis toujours aux États-Unis, Apple a vendu 1 million d'iPad en un mois. Le fabricant informatique américain a du même coup affirmé que sa nouvelle tablette avait atteint 1 million, deux fois plus vite que l'iPhone. Pour l'instant, l'iPad n'est en vente qu'aux États-Unis. À la fin mai, ce nouvel appareil sera mis en vente en Australie, au Canada, au Japon et en Europe.
Question du mercredi. Une émission de France Inter et du journal Le Monde avec Dailymotion, tous les mercredis à 19h20. Thomas Legrand.
Jean-Marc Ayrault, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, sera notre invité ce mercredi pour parler de la crise grecque, des réponses européennes, du projet des socialistes pour 2012 et pour souffler les trois bougies du président Sarkozy. Il aura comme contradicteur Dominique Payet, le porte-parole de l'UMP. Rendez-vous donc avec Jean-Marc Ayrault pour les questions du mercredi.
Une émission présentée par Thomas Legrand avec Françoise Fressos du Monde, mercredi à 19h20. France Inter, partenaire des grandes voix. Retrouvez Rolando Villasson avec des extraits d'opéra de Handel le 6 mai à 20h, salle Pleyel.
À retrouver dans les émissions de France Inter.
Renseignements sur franceinter.com. France Inter.
La différence.
Et il est tout juste 16h04 sur Inter, l'heure du carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Clotilde. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Ce week-end, j'étais à Biarritz pour raisons musicales, mais un autre événement occupait les esprits, la rencontre de rugby entre Biarritz et Munster en Irlande. Alors les Biarros ont gagné, on le sait maintenant, bien sûr, et la joie régnait dans les rues. Et les Irlandais, certes un peu déçus, ont été, comme très souvent, fair play. Alors je dédie à tous les combattants autour du ballon ovale l'entrée des gladiateurs, fameuse musique jouée dans les cirques du monde entier, le compositeur Julius Fučík, un tchèque. L'entrée des gladiateurs de Julius Fučík, interprété par le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Liverpool, très connu aussi pour son club de foot, est dirigé par Libor Pešek. Mais le rugby a sa musique, vraiment, très précisément. Arthur Honegger, compositeur suisse né au Havre, et il était assez amoureux de la vie en général. Il a même fait une musique sur une locomotive. Et là, il a composé pour le rugby. Alors, on se demande vraiment si la musique a vraiment à voir. Enfin, peu importe, ça peut illustrer effectivement quelques poussées, quelques mêlées très 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 musclées, ce qu'on a vu hier à Biarritz où un des attaquants principaux avait le nez cassé, mais il s'est battu, il a joué avec un énorme pansement, une sorte de masque pour protéger quand même cet appendice cher à tout le monde, surtout quand il s'agit de sentir les bons mets du Sud-Ouest. Voici la conclusion de Rugby d'Arthur Honegger.